Bienvenue à tous dans ce dernier épisode de notre saison historique pour notre podcast Protège ma promesse. Comme pour notre dernier épisode, je reçois à nouveau le père Tabourin de la Sainte-Croix de Riaumont. Bonjour mon père.
Bonjour.
Nous avons évoqué la dernière fois l'histoire à la fois des scouts Saint-Georges, des scouts et guides catholiques de France, puis de Riaumont, et la spécificité aussi des scouts et guides catholiques de France, c'est qu'ils ont donné, ils ont été à l'origine des scouts de Doran. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce mouvement?
Oui, alors les scouts de Doran sont lancés en 2003, donc là on est à une époque où la fracture sur la messe traditionnelle est beaucoup plus claire, et même c'est même compliqué avec en 1988. Ils gardent l'intégralité des revues et des insignes scouts catholiques de France, sauf une bande de mouvements, et la quasi-totalité du millier de membres qui au départ donc venaient de l'association des scouts et guides catholiques de France, mais ne cherchent pas, au moins les autorités, à s'en prétendre comme une filiation. Aujourd'hui, maintenant, ils ont repris les insignes et l'association des scouts et catholiques de France ayant disparu, ils assument plus facilement cette filiation, comme Riaumont d'ailleurs aussi. On peut citer le gros groupe de Nantes aujourd'hui, ou des groupes très anciens qui étaient déjà au Cateau de France, comme le groupe de Marseille ou celui de Mérigny avec la fraternité de Transfiguration. Alors pourquoi Doran? C'est un nom un peu passe-partout, mais qui est adopté, un clin d'œil, on n'en a pas parlé malheureusement, mais c'est le Louis Faurobert, qui avait un chef très lié à la crise des cercles Saint-Thomas d'Aquin et la crise de la roue des années 50, une figure déjà de la contre-réforme, qui était aussi au catholique de France, le premier commissaire route, il écrivait des articles sur les Berthis dans sa chaîne. Et donc ce chef de clan avait construit dans les années 50 une chapelle dans les Alpes, dans les alpages d'Oran. Voilà, donc d'Oran, c'est un nom qui ne dit rien à certains et qui dit beaucoup à ceux qui connaissent bien l'histoire de Faurobert. Alors pendant les 15 premières années, les scouts de Doran conservent les mêmes rapports au sacre de 88, donc cette position qu'avaient les scouts catholiques de France, à la fois bienveillante et neutre, ce qui est d'ailleurs assez cohérent par le fait que Pierre Monnet reste quand même assez actif pour le CEP ou le Revue ou proche de l'association. Mais en fait, on l'avait déjà évoqué dans le dernier entretien, la majorité dès le départ est plus proche de la fraternité Saint-Pédis que de ce qui va devenir la fraternité Saint-Pierre ou Riaumont. Et donc, c'est l'époque, donc, au début des années 2000, où les unités ecclésiadéies investissent en fait les Europa Scouts. Et les contacts avec Riaumont finissent par ne plus se faire qu'à travers des week-ends ou des camps-écoles organisés par l'Office dont on a parlé, qui est un organisme inter-scout d'initiative. Mais une génération passe et les gens se connaissent de moins en moins. Ça va même, leur histoire continue et je leur laisse la continuer. Par contre, on peut noter par exemple qu'en 2022, donc tout récemment, il y a eu une première nomination d'un nommé général et donc exclusivement de la fraternité Saint-Pédis ou des communautés qui leur sont rattachées. Voilà, donc les scouts de Doran, avec la messe traditionnelle et exclusivement Saint-Pédis aujourd'hui, après avoir été dans la ligne des scouts catholiques de France, plus sur la messe traditionnelle simplement.
Et en parallèle des scouts et guides catholiques de France, c'était fondé aussi en 1982, les scouts Godefroy de Bouillon. Quelles sont leurs spécificités?
Ah oui, alors justement, c'est intéressant ce rapprochement parce que à l'origine, vous savez, c'est une histoire tout simplement de personnes. Hein. Il faut bien reconnaître que c'est en 82, des accords avec le comité central des scouts et guides catholiques de France, avec Henri Montalbetti, puis un certain Michel Aulagnon, qui a été très longtemps après patron des scouts Godefroy de Bouillon. Et donc, il décide de quitter les cathos de France, avec une trentaine de membres, simplement, et le groupe de Wagram à Paris, chapelle Wagram. Crée d'abord une petite association qui nomme carrément Scoutisme catholique, avec les scouts de Mantes-la-Jolie. En 84, cette association prend le nom de scout Godefroy de Bouillon. Et il faut attendre 2007 pour qu'elle devienne une fédération des scouts et guides. Godefroy de Bouillon est ouvert aux guides en 92, je crois. Et récemment, d'ailleurs, aussi à des rondes de Jeannette, comme celle de Doran, qui existe déjà à Mérigny ou à Nantes. Alors, ils ont... C'est difficile de dire les différences avec les cathos de France à l'époque. La formation était sûrement plus légère, les premières années, hein, puisqu'il faut quand même attendre les premiers camps de formation en août 2007. Par contre, ils organisent, puisque ça fonctionne avec des BAFA BAFD, souvent en partenariat avec la Focale, des sessions BAFA. Ça, c'est vrai. Ils ont une revue qui s'appelle Kral Info. Il y a parmi eux un... Il faut citer le père Morandi. Alors, c'est indépendant au départ des Godefroy de Bouillon, mais en 76, il avait... C'était un mariste qui avait rejoint la Trente des Armées, puis après, à Versailles, Saint-Pédis. En 76, il avait soutenu les Godefroy de Bouillon, mais préférait sa propre fédération qu'il appelait Ordre Scouts. Alors ça, c'est quelque chose qui fait toujours assez fantasmer les collectionneurs. C'est une belle boucle de ceinturon, mais c'est une coquille quasiment vide. Ils ont édité, par contre, un manuel, même plusieurs manuels, mais dont le Louveteau, qui a pas mal eu de succès. Donc après le décès de ce père Morandi, les scouts de Bourg-la-Reine passeront quelques années aux ONEF, et puis ils ont rejoint finalement en 2010 les scouts de Godefroy de Bouillon. Voilà, que dire d'autre? Alors, les scouts de Godefroy de Bouillon, ils vont être peut-être plus marqués par le sacre des évêques de Monseigneur Lefebvre en 88, puisqu'ils vont prendre comme principe de refuser par principe toute collaboration avec des aumôniers non ordonnés par la fraternité Saint-Pédis. Voilà. D'accord. Mais cette différence aujourd'hui semble assez atténuée avec les scouts de Doran. On verra demain ce que ça donnera. Je ne connais pas l'avenir.
Certains petits mouvements scouts se cantonnent à quelques unités. Je pense par exemple à Saint-Malo ou à Bordeaux. Comment cela fonctionne quand c'est vraiment quelques petites unités, pas des grands groupes?
Alors déjà, là, on est en législation en France. Actuellement, ça s'appelle, c'est plus il y a que du scoutisme. On est en législation CVL, centre de vacances et de loisirs, donc avec des camps sous tente, mais activités qui peuvent être en autonomie au moins à partir de 14 ans. C'est plus difficile, mais c'est possible, à condition de passer des BAFA et des BAFD, bien sûr. Oui. Alors, les troupes marines, il faut savoir que j'ai une vieille histoire à Paris, la 13e, la 23e marine, qui était passée au scout de Saint-Georges, les fameux cadets de France aussi, après 77, qui viennent de 3e marine Paris. En fait, au début des années 80, même les cadets de France étaient associés avec les cadets de France. Moi, j'ai le souvenir d'un CEP avec l'abbé Boubet et le futur abbé Hugonnet, qui est aujourd'hui à Bruxelles, avec Saint-Pierre, avec leur beau bâchis. Donc les cadets de France vont se rattacher au Saint-Nicolas du Chardonnay. Ils ont un bel insigne, ils ont une sorte de croix celtique avec quatre fleurs de lys joints par le pied. Et depuis 2005, à Paris, ils s'appellent les scouts et guides aussi d'ailleurs maintenant, Saint-François-Xavier. Saint-Malo, c'est un peu la même histoire. Il y a aussi un groupe de cadets, je crois, du côté de Bordeaux. Là, c'est un équipage de scouts autour du prieuré de l'Envalet, de Saint-Pédis, donc. Il y a un insigne avec des ancres et un Sacré-Cœur. Après un court passage au scout d'Odoran, ce groupe a pris son indépendance fin 2004. Il met campe chaque été, 3 semaines, avec première semaine de navigation, en dessous entre Saint-Malo et Saint-Ca, et sur c'est les 4 caravelles, au moins jusqu'en 2015. À Bordeaux, plus connu, c'est le groupe, d'abord la troupe, autrefois on disait la THR, maintenant on dit la groupe Henri de la Roche-Jacquelin, la GHR, avec ce cri rambard, qui est devenu le symbole. Depuis 1979, donc là on a un groupe très ancien, qui donc a formé plusieurs générations, un foulard vert et blanc. Alors bon, il y a eu, comme beaucoup des groupes, il y a des problèmes de... quelquefois de petits schismes, le groupe Lescure sur la paroisse Saint-Éloi, avec les prêts du Bon Pasteur, en 2007. Mais ces groupes autonomes, bon, ils ont une forte personnalité, une belle histoire, une longue histoire. Le groupe Henri de la Roche-Jacquelin est assez présent sur Internet aussi. Mais le problème, justement, c'est la formation et la continuité de la méthode scout en autonomie, en fait.
Parce qu'ils ont leur propre formation indépendamment des BAFA ou
c'est... Alors, ils s'y essayent, certains font des week-ends, il y a des réunions de HP, etc. Mais c'est sûr qu'à part les CEP de l'Office, il n'y a pas eu grand-chose d'organisé. Au niveau national, c'est très difficile pour des associations d'organiser une vraie formation de qualité comme un CEP, comme font les SUF ou les Europe.
Bien sûr. Et il y a aussi les scouts Saint-Louis à Lyon.
Oui, tout à fait. Alors, les scouts Saint-Louis, là, c'est différent. Là, on a c'est lié à une crise d'un district FSE en 71, à défaut de pouvoir devenir district autonome, comme l'avait fait le scout et un district à Saint-Benoît, à Nantes, qui a fait sécession de la FSE en 71, avant de rejoindre finalement les scouts Saint-Georges. D'ailleurs, on retrouve cette origine scout d'Europe dans son insigne, une fleur de lys sur croix rouge, un petit peu limée. Là, c'est en 72, en septembre 72, des anciens chefs de la première. De la première Lyon, groupe Bernard Delatte de Tassigny, hein, le fils du général, du maréchal. Troisième, quatrième, cinquième Lyon, puis deux patrouilles libres aussi, dont Bruno Marion et puis le futur abbé Denis Coiffé, que j'ai connu au Chesnay après. Des personnalités aussi, comme Jacques Duployet, qui va être président de la Focale, ou Yves Maudre, qui est ancien directeur des Enfants du Mékong, qui était de la patrouille libre de 7e Lyon, ont des forts caractères. À une association vraiment locale, dans le Lyonnais. Alors, il y a aussi Saint-Étienne, on peut citer Robert Étienne. Et sur Lyon, qui va ouvrir aussi une troupe marine et une troupe alpine. Une histoire assez longue, donc. Une particularité aussi, une association de parents. Dès l'origine, hein, il y a une mise en place des responsables parents. Les familles sont très impliquées, hein, selon le droit naturel. Alors, la question de la messe tridentine, au début, c'est pas forcément la paroisse. Il tourne autour de la paroisse la Trinité, donc à Lyon, et puis aussi du père Delarue, un fameux aumônier du REP. Aujourd'hui, c'est la fratrie de Saint-Pierre, pardon. Mais c'était la question liturgique, encore une fois, n'était pas aussi claire à l'époque. Une revue que depuis 72, quand même, c'est notable, la revue Montjoie. Un effectif donc à trois chiffres, hein, des membres qui se comptent par centaines, mais sur une durée remarquable, parce qu'ils viennent de fêter leur 50e anniversaire. Avec oui. Alors, il faut savoir que donc ils ont rejoint les éclaireurs neutres de France, comme les Europa Scouts, en 2002. Donc, ils participent avec eux depuis 2005 au pèlerinage des aînés de Toussaint à Cléry. Oui, j'ai pas parlé à l'émission de. Enfin, j'en parlerai plus tard. Mais c'est vrai que Riomont était la première association affiliée aux ENF. En 2001, et pendant 15 années, on a suivi ce tronc commun.
Donc justement, ces éclaireurs neutres de France, que sont-ils beaucoup de petits mouvements dépendent de ces éclaireurs neutres de France.
Alors, ce n'est pas une fédération, hein, et chaque membre doit adhérer individuellement aux ENF, mais c'est vrai qu'ils ont une possibilité d'association affiliée. Il faut savoir que les ENF, c'est une très vieille association, hein, 47. Première association séparée en fait des éclaireurs de France, et comme éclaireurs ils ont gardé cette notion de scoutisme non confessionnel, un peu à l'anglaise, de neutralité mais qui se veut positive, hein, pas laïcité agressive de certains Français.
On fait place à la spiritualité de chacun.
Absolument, comme le voulait Baden-Powell d'ailleurs. Et d'ailleurs, il n'y a pas que la cadence, j'allais dire, avec les ADI aujourd'hui, qui, même si elle est majoritaire, on y rencontre en CEP des agnostiques. Moi, j'ai croisé des musulmans, et même une aumônerie Saint-Pédis, un groupe à Brest. Donc, c'est vraiment ouvert, mais selon des règlements bien précis qui les rattachent, en fait, à l'origine. Ils ont même été rejoints en 52 par Georges Berthier, le fondateur des Éclaireurs de France. Même l'abbé d'Andréis, alors ça c'est un prêtre un peu plutôt sioniste, mais en 59, qui était à l'origine aussi des Scouts de France dans le sud. Mais les Éclaireurs de France, en fait, après-guerre, juste après Moisson, pratiquement en 49, les résolutions d'Angoulême ont introduit les notions très présentes dans l'éducation nationale aujourd'hui, de démocratie, de mixité, etc. Et c'est vis-à-vis de ça qu'ils ont réagi. Et donc, pendant la période même de la contre-réforme, on les voit très présents, hein, c'était curieux. On les voit des revues communes, on les voit proposer des CEP, on les voit proposer même d'accueillir des unités. Et donc là, il s'est trouvé qu'à partir de l'an 2000, leur effectif ayant beaucoup baissé aussi, il y a eu cette possibilité pour des groupes de trouver et surtout de partager avec eux, du coup, le fameux agrément scoutisme, qui est en fait, au niveau catholique, en dehors des scouts de France, scouts et guides de France, des guides des scouts d'Europe et des unitaires, n'est donné à personne d'autre pour l'instant. Et du coup, forcément, il y a un vrai besoin aujourd'hui, et en tout cas, il y a un vrai public.
Pas mal de groupes peuvent camper grâce aux ENF, grâce à cet agrément.
Oui, mais ils sont vraiment ENF. Oui. Alors, bon, les Europa Scouts, vous aurez une émission spéciale sur eux. Il faut savoir que leur racine avec les Europa Scouts de Vienne en 52, c'est très lointaine. Il y a pas mal de disputes sur la réalité historique de l'histoire européenne de la FSE, mais en fait, en 87, c'est quand Pierre Géraud-Kéraud est mis un peu à l'écart des scouts d'Europe. Il va rentrer dans son sillage à un noyau historique avec des groupes scouts d'Europe, surtout dans l'ouest et sud de la France. Mais en 99, il ne restait plus guère que des groupes comme la 3e Nancy. ou la première Saint-Maurice, qui étaient, eux, plutôt traditionnalistes, et du coup, qui vont, autour desquels va se reconstituer, et alors que eux, qui étaient justement un peu en scission de la FSE en 98, et leur croissance va donner un nouveau visage aux Europa Scouts de Keraoud. Et en tout cas, ça correspond à un vrai besoin pour une aumônerie de forme extraordinaire traditionnelle du rite romain.
Donc on a parlé beaucoup de nombreux petits mouvements. Certains ont périclité, d'autres demeurent. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit panel de...
Oui, alors c'est un peu le fantasme des historiens du scoutisme. Mais c'est vrai que les associations issues de la réforme de 64 ont poussé un peu comme des champignons, mais ils ont disparu presque aussi rapidement. Souvent, c'est des groupuscules, ça se compte par dizaines, rarement centaines. Avec les risques que ça présente, bien sûr, d'application tronquée de la méthode ou d'un esprit sectaire, voire même une dérive un peu militariste. Combien elles étaient ? En 77, on en a dénombré plus de 60.
En fait,
Il y a eu un agenda Kral des éditions de l'Ormeron en 87, là, qui leur a donné une grande publicité, une certaine visibilité au grand public, mais les présentaient sans les distinguer le nombre de membres. Alors, tous les collectionneurs s'arrachaient leurs insignes et découvraient des noms comme ça. Beaucoup ont disparu, hein. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Disparu, par exemple, les scouts de Baden-Powell, en France, hein. Donc, d'un groupe Baudouin 4, la troupe Baudouin 4 et le groupe Végan. C'est quand même un, je voulais chercher, mais un des évêques sacrés par François Lefebvre qui en est issu. Des scissions comme les scouts catholiques français, alors c'est l'histoire de Irène Rivière avec une seule unité à Lyon, des scouts catholiques des Yvelines, bon. Ou des créations comme les scouts Notre-Dame de France, alors là c'est le prieuré du Pointer en 117 du côté de Clermont-Ferrand. D'ailleurs, à ne pas confondre avec le groupe local de Besançon qui a intégré les ONF, qui a aussi le nom de Notre-Dame. Mais ces scouts étaient essentiellement des unités féminines. La plupart vont rejoindre les cathos de France. Mais il y a eu la THR à un moment en 79 qui a passé au scout Notre-Dame.
Donc la troupe en Lyon-Orge-Lac-Plain.
Oui, tout à fait, pardon. Alors, des plus intéressants, les groupes subsistants. Oui. Alors, je précise qu'on est en mai 2023. Les scouts de Caen. Alors là, c'est fondé en 69. Hein. C'est quand même une histoire de post-pionnier qui refuse la réforme. C'est assez curieux. Ou d'un chef ranger, je ne sais plus très bien. Mais en tout cas, en 69, il y a foulard jaune et blanc. Aujourd'hui, ils sont très diocésains. Et ils sont revenus à la méthode unitaire. C'est un des seuls groupes de France, d'ailleurs, hors divergence ecclésiale ou liturgique, hein, à ne pas avoir rejoint des grandes associations. On y trouve une grande responsabilité des patrouilles avec leur CP. Hein. Il n'y a pas d'attendant de troupes, par exemple. Moi, j'ai croisé dans les années 80, quand il n'y avait pas encore l'espace Schengen et l'Union européenne, mais des CP qui emmenaient leurs patrouilles en Italie, tout seuls dans le train, voir les prémontrés de Sant'Antonio, qui étaient un peu qui ont déménagé depuis au Frigolais. Autre particularité des scouts de Caen, ils ont pour les filles, les fillettes, pour la branche cadette, une pédagogie sur le Petit Prince et les étoiles. Voilà.
Ah oui,
pour ceux qui veulent connaître un peu autre chose que les Jeannettes ou les Louvettes.
On les appelle quand même les Jeannettes?
Je ne sais plus. Mais j'avoue que j'aimerais bien avoir leur manuel. Je n'ai jamais réussi à obtenir pour l'instant. Mais en tout cas, les Petits Princes, moi j'aime beaucoup le Petit Prince, donc les étoiles, ils visitent des planètes, je crois. Les scouts de Saint-Benoît, un peu à l'époque, c'est le père de Félégon en 71. D'ailleurs, ils ont, à une certaine époque, ils ont des pionniers rangers, puis ils ont abandonné, ils sont revenus. Bon, ça existe encore, en région parisienne. Les scouts de Cluse, en Haute-Savoie. Alors là, c'est plus vers l'humanitaire. Il y a des convois de camions organisés par eux, puis ils ont des clubs sportifs sur place, avec des louveteaux maintenant, et des guides aussi, mais pas de louvettes, je crois. Tiens, je vais vous donner un scoop que personne ne connaît. Les scouts et guides de la Verberie. Alors, la Verberie, c'est une paroisse dans l'Oise, les scouts qui sont à cheval, alors ça réfère, mais aussi en kayak, et ils se voient déjà aussi alpin et dans toutes les positions possibles et toutes les circonstances. En fait, c'est un curé de paroisse, tout simplement, sur place, alors qui fonctionne bien sûr en BAFA-BAFD, hein, qui a monté son groupe et qui ça donne bien et qui a beaucoup d'apostolat, même auprès des filles maintenant. Voilà, c'est des histoires d'initiatives locales souvent. On a les scouts de Don Bosco, alors là, c'est l'histoire de la Bégac avec les fraternités Saint Thomas de Becket, là.
Oui.
Où là, les séminaristes sont très investis, même comme chef. Aujourd'hui, ils ont rejoint les ENF depuis 2021, je crois. Et puis, on peut parler de la 6e Paris, par exemple, alors, le fameux foulard bleu clair et blanc, qu'on voit souvent au service d'ordre au sein du pèlerinage de Chartres, hein, comme le district du Chênay. On appelle les scouts Saint-Michel. Alors là, c'est une histoire extrêmement mouvementée à travers diverses associations qui donnent un panorama de toute cette époque-là. Au départ, il y a eu un dédoublement en 1975 de l'XVIIe Paris avec l'abbé Montarien, la fameuse chapelle polonaise, fondée en 1967 au sein de l'FSE à Paris, un bref passage au Saint-Georges, en rentrée 1977, je crois. Même au SUF, quelques années, à partir de 1991. Après, ils ont campé avec les scouts de Saint-Louis en 97, ou même sous le BAFD de Riomont, je me rappelle, en 99, en Bourgogne. Maintenant, ils sont stabilisés depuis 2004 au sein des UNF. Ils sont même ouverts au guide, un groupe Sainte-Jeanne d'Arc. Mais on voit là une personnalité d'un groupe qui, au-delà des étiquettes des mouvements, assume une vraie histoire. Et doit s'adapter, bien sûr, au contexte législatif de chaque époque.
Bien sûr. Donc la plupart de tous ces petits mouvements sont attachés à la messe traditionnelle.
Vous avez oui, alors pour les scouts de Caen, ils sont très diocésains. Les scouts de Saint-Benoît, c'est aussi, c'est pas du tout... c'est pas forcément tout cela, non, même à part la 7e Paris.
Oui.
Les scouts de Don Bosco, c'est un petit peu particulier, la Bécac. Mais oui. Non, les autres, pas forcément, ça peut être des histoires. Les grands mouvements cathos traditionnels, ça reste quand même Doran, Riomont et oui. Europa et puis Gautreau-Bouillon, si on veut.
Et alors, quelle part du scoutisme catholique représente tous ces petits mouvements? Parce qu'on a des énormes mouvements comme les scouts de France.
Tout à fait. Oui, je crois qu'il faut vraiment savoir distinguer les mouvements à 3 chiffres, à 4 chiffres ou à 5 chiffres. On peut se distinguer, on peut disputer sur les chiffres, mais enfin, entre des milliers ou des dizaines de milliers, c'est pas la même chose. Il y a une grande différence par rapport aux éclaireurs d'avant-guerre, avant la Première Guerre mondiale, pardon. À l'époque, c'était plutôt neutre. Aujourd'hui, c'est inverse. Très rapidement, après les scouts de France, c'est largement catholique majoritaire en France. Ça, c'est évident. Ça correspond aussi à un panel de choix de famille qu'il faudrait savoir respecter aujourd'hui liturgiquement. J'avais parlé du problème de l'agrément de l'État pour une gestion d'accueil de scoutisme. Donc aujourd'hui, il n'y a que les guides des scouts de France, Europe et SUF, et puis ENF, mais qui ne sont pas confessionnels.
Oui.
En effectif, ça fait aujourd'hui les scouts de France, scouts des guides catholiques de France. Scouts des guides de France qui ont fusionné d'ailleurs depuis 2004, voilà. Sur un effectif en croissance, 97 000. Il faut savoir quand même que les scouts d'Europe, rien qu'en France, 35 000 et les SUF 33 000.
Ouais.
Toutes les associations sont en croissance. Donc si les scouts de France et les guides de France vont atteindre peut-être les 100 000 bientôt, il faut savoir qu'au plus fort de leur croissance, au tout début des années 60, ils étaient quand même ensemble de 100 000 pour 47 millions d'habitants. Donc il y a quand même une perte, mais une complémentarité aussi si on met ensemble tous les mouvements.
Bien sûr. Et donc pour les petits mouvements, ils représentent, on peut savoir à peu près combien ils représentent parmi tout cela, ou c'est vraiment une...
Alors à chaque fois, c'est l'effectif de quelques centaines à quelques milliers, pas
oui,
plus.
Donc, c'est, des
donc c'est pas que c'est négligeable, mais...
Mais ça offre une diversité aux familles.
Oui, et selon les lieux aussi, et selon les... Il y a une vraie demande, en tout cas, il y a autour de la messe traditionnelle, ça c'est sûr.
Bien sûr. Et donc tous ces mouvements, j'imagine qu'ils se croisent à certains moments, pour certains événements. Est-ce que vous pouvez nous parler de certaines initiatives interscouts, comme on dit?
Ah oui, c'est beau de terminer par ça, parce qu'en fait, il y a plein d'initiatives interscouts, mais généralement plus locales qu'au niveau national, selon les chefs, selon les personnalités. Des essais de fédération, il y en a eu en 71, une fédération française de scoutisme qui essayait de rapprocher, puis se sépara d'ailleurs en deux, les 80, c'est assez compliqué. Mais à l'époque, déjà, il y a eu un rapprochement des Saint-Georges avec les ENF, qui les présentent comme des nouveaux amis. C'est très curieux, quand on voit ce qui s'est passé en 2000 avec les ENF, on avait déjà porté le même insigne commun de la Fédération des Françaises de Scoutisme. Des mises en commun, même matérielles, les coopératives comme bon, en Ile-de-France, les éclaireurs unionistes, qui s'appelaient les marchands du Temple, vont accueillir les SUF au début, avant de devenir Scoutisme et Aventure. Et puis ils vendront par la suite des insignes ENF et Saint-Georges. Bon, on va dire que c'est peut-être purement matériel, mais enfin...
Dans les revues. En commun, pas...
Non, les ventes d'insignes ou les coopératives après la fin de la hutte, qui est devenue Intersport d'ailleurs. Les revues, j'en ai parlé un petit peu, mais il y a eu des mises en commun des moyens entre les scouts unitaires la fameuse revue Red qui a précédé Woodcraft, hein, et la revue Feu de camp des UNF, par exemple, mais aussi avec les Azimuts, qui était la revue des éclaireurs unionistes qui gardaient la chemise beige, donc unionistes unitaires. Des pages techniques, bien sûr, en commun, pas religieuses, hein, à la fin des années 60, mais encore à partir de 71, on trouve ça pareil dans Jungle et Woodcraft et Azimuts, on trouve des pages communes. Dans l'édition, on peut citer Lormeron, avec Louis Fontaine, puis Elor, qui est avec Michel Gurnot et sa famille, qui va aussi beaucoup, dans les années 80, publier des livres et mettre en commun dans sa gazette des initiatives de petites troupes locales. Le milieu particulier des collectionneurs, alors le réseau Baden Powell, le plus ancien, avec son musée à Toray, puis maintenant des archives numérisées qu'il met à disposition, qui permet justement une vue croisée des revues et à différentes époques. Scoutisme Patrimoine et Collections, qui est une autre association qui est présente sur Internet aussi. D'ailleurs, au début d'Internet, il y a des forums comme Fraternité du Scoutisme, Fraternité Scout, aujourd'hui fermé, mais qui a gardé ses archives accessibles en ligne, a beaucoup de discussions intéressantes et de renseignements justement sur ces associations. Aujourd'hui, il sera plutôt sur Facebook, un groupe privé qui s'appelle CRAL, 900 chefs et cheftaines, donc de diverses associations scouts catholiques françaises, qui peuvent échanger plus facilement que. La question des camps-écoles communs, qui est quand même une question difficile, et oui. Qui, en fait, dès le premier CHAM 66, hein, le fameux Route de demain, avec Tavernas, Klotz, Montalbetti, Peignot, Faurobert, etc., il y avait déjà 18 scouts d'Europe envoyés par PGK, par M. Keraoud, oui. 18 sur 33 participants, donc il y avait. Bon, à l'époque, il y a eu aussi un deuxième camp-école à Faucombeau, d'ailleurs une trentaine de participants à PAC 67, donc il y a eu des essais de camp-école commun.
Qui n'ont pas perduré très longtemps.
Alors après, chaque association a voulu prendre la main et faire son propre. Mais encore en 81, il y a eu un camp-école SUF commun avec les UNF à PAC, à Blénéo. Mais l'exemple le plus long et le plus vrai, c'est quand même depuis le début des années 80, donc 40 ans, les CEP de Catholique de France avec l'Office. Où on a croisé aussi quelques scouts Saint-Louis, quelques cadets de France, quelques Europa Scouts et même des guides d'Édimbourg, mais ponctuellement. Les ENF et Riomont, donc j'en ai dit, ça a duré quand même plus de 15 ans, hein. C'est aussi un exemple de fraternité vécue. Alors, une petite anecdote, je ne sais pas si on a encore le temps, mais oui. Le moment du centenaire 2007, on a vu se rapprocher les grands mouvements et c'était très, très heureux. Et sauf que les ENF ont été invités aussi sur la tribune, mais on leur a imposé une condition assez étonnante. C'était les ENF sauf Riemont, Saint-Louis et les Europa. C'est-à-dire sauf les gars. Ça s'associe. Donc, ils ont été fêter leur centenaire à part à Guerver. Avec une belle messe pontificale tridentine par Mgr Madec. Mais bon, c'est là on a vu quand même les limites de cette fraternité. Il y a eu une conférence française du scoutisme qui a été lancée en 1999, mais à la suite de l'accident de Perros-Guirec, avec la suite d'une lettre aux familles que les SUF avaient signée, mais qui n'ont pas voulu adhérer après à cette CFS. Donc, une existence tout à fait anecdotique. Aujourd'hui, par contre, une commission nationale marine de scoutisme marin, là, qui, après décembre 2007, a vraiment regroupé, alors très technique, hein, mais sur les scouts marins, scouts de France et guides de France, FSE, SUF et EU. Donc c'est une des rares instances de collaboration concrète entre les mouvements sur le problème de la sécurité en mer et des diplômes nécessaires, c'est bien. De point de vue plus spirituel, on pourrait parler de la peu connue, mais en années 70, une fraternité Saint-Joseph, avec un beau Sacré-Cœur sur une croix scout comme un signe, où on retrouvait là vraiment des groupes complètement indépendants, comme le groupe Baudouin 4 à Paris, des scouts d'Europe comme Rémi Fontaine à la première Saint-Maurice dans le Val-de-Marne, paroisse des Saints-Anges Gardiens, des scouts Saint-Louis avec Denis Pierre, Jacques Arnoux, Cœur Montjoie, puis des scouts de Riemont. Fraternité Saint-Joseph qui, là, vivait de la spiritualité des scouts, quels que soient les mouvements, et organisait des retraites et des revues qui sont très recherchées aujourd'hui. Réseau Scoutisme et Prière aussi, ça c'était plutôt Bruno Rondet, qui est un ancien de la FSE, qui a produit pas mal de prières, de bulletins. On pourrait citer les Foulards Blancs à Lourdes. Alors au début, il y avait la FSE a été exclue, donc elle a eu créé ses Foulards Bleus, avec Jean-Marie Sorlot et le groupe du Chesnay. Et aujourd'hui, Dieu merci, les foulards blancs, c'est un exemple de service en commun intéressant. C'est souvent pour la branche aînée, bien sûr, ce qu'on appelle la route des hommes en Belgique. Il y a eu des essais de foyers, de communautés, de RS aussi, surtout les FSE. Aujourd'hui, il y a un site qui s'appelle le RASSO, typiquement Scout d'Europe, d'anciens, mais aussi une plateforme professionnelle commune avec les SUF, pour partager des stages, par exemple, le problème des chefs au l'été. On peut citer aussi les messes interscouts, donc différentes diocèses, les chorales aussi, à Paris, les chorales des Flandres aussi, près de chez nous. Donc là, on a un ensemble de petites choses et de petits gestes, de petits qui essaient de vivre l'article 4 de la loi Scouts, malgré les aléas de l'histoire et un peu les oukases des QG qui sont forcément un petit peu plus regardants sur ces contacts interscouts.
Donc article 4, le scout est bon pour tous et frère de tout autre scout.
Tout à fait.
Voilà, article qu'on terminera notre épisode de ce podcast. Protège ma promesse. Merci beaucoup, mon père, pour tous ces éclairages, toutes ces précisions historiques. Merci également à nos auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'ici. Merci à tous. Merci, mon père.